Les colloques du Collège de France.
Merci beaucoup. Tout d'abord, je vous salue tous. Merci à toutes et tous d'être là pour nous écouter. Et bonjour à toutes et tous. Je remercie le professeur Menger de son invitation, mais également sa collègue Manon Laurent pour les communications qu'on a eues dans les préparatifs. Donc merci beaucoup pour votre écoute et votre aide à tout organiser. Alors aujourd'hui, en fait, on va vous présenter un exposé qui s'appelle « L'école du laïc » vers un troisième référentiel des relations entre l'école et les familles. Et donc ça va être les résultats d'une enquête toute fraîche qui est parue très récemment, donc au mois de septembre de cette année, aux presses universitaires de France, donc qu'on a mené avec mon collègue Jean-Paul Payet. Donc cette enquête, elle porte sur des applications numériques pour l'école primaire. Donc vous avez ici quelques noms, enfin des applications auprès desquelles on a enquêté, donc Benelli School, Classroom, Classe Dojo, enfin Classly plutôt, Edimove, One, Skolnet et Toute Mon Année. Donc ce sont des applications de communication entre enseignants et parents qui sont apparues assez récemment, donc dans les années 2010. Donc vous voyez, c'est encore assez neuf. Et c'est un phénomène qui est très bien implanté en fait dans les écoles nord-américaines, alors qu'en France, on est plutôt sur un phénomène plus récent, où ces applications, ces éditeurs privés sont encore à la recherche de marchés, donc cherchent des marchés, cherchent à se diffuser sur le territoire, également en se livrant une concurrence très forte, puisqu'il faut savoir que ces applications ne sont pas seulement présentes dans les écoles, mais on peut également les trouver dans les crèches, dans les centres de loisirs également. Donc nous, notre enquête, on l'a menée auprès de différents acteurs. D'abord, donc, au cœur de notre enquête, les professeurs des écoles. Donc, ce sont eux qui choisissent les applications. Ce sont eux qui décident d'utiliser une application et l'application qu'ils souhaitent utiliser. Donc, on est vraiment ici sur le principe d'une liberté pédagogique très, très forte, c'est-à-dire que l'enseignant du premier degré, dans sa classe, peut choisir d'utiliser telle ou telle appli comme il choisirait d'utiliser tel ou tel manuel. Vous voyez, c'est vraiment une liberté pédagogique ici qui lui est permise. On a également enquêté auprès des parents utilisateurs. Donc, eux, ils ne choisissent pas l'appli, donc ils sont dépendants de l'application qui est choisie par l'enseignant de leur enfant. Et nous avons également enquêté auprès des éditeurs de ces applications. Donc, ce sont des entreprises privées qui vont faire un travail, en fait, auprès des enseignants, pour vendre, entre guillemets, leur application et susciter l'intérêt, l'engouement des enseignants à l'utiliser, mais également auprès du ministère de l'Éducation nationale. On ne va pas vraiment développer ce point ici, mais si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à lire notre ouvrage, puisqu'on développe vraiment ce point, c'est-à-dire le lien entre l'institution publique et ses éditeurs privés, et comment une application va être permise, puis freinée, et tous ces jeux, en fait, aussi de va-et-vient entre le public et le privé. Alors, donc ici, déjà, le point commun donc, entre ces applications, donc on a mis un titre un petit peu peut-être provocateur, peut-être, en sociologie de l'éducation, donc enseignant community manager et parents followers. Donc le point commun donc, entre ces applications, c'est leur filiation avec le modèle du réseau social. Donc ça, c'est vraiment la nouveauté de ces applications, c'est que l'enseignant développe des compétences en communication et anime sa communauté de parents d'élèves, donc comme un community manager, c'est-à-dire un animateur de communauté, comme sur un réseau social. Et les parents follow, c'est-à-dire suivent, les publications de l'enseignant, en cela, donc ils sont des followers de ces publications. Donc là, on est vraiment pas du tout sur le modèle de ce qui est très répandu donc en France dans le secondaire, c'est-à-dire Pronote. Donc on diffère vraiment de cette application, puisque Pronote, pour vous le rappeler peut-être, je pense que tout le monde la connaît, mais quand même, c'est plutôt l'emploi du temps. les informations très pratiques et puis les notes, des supports pédagogiques, etc. Ici, on est plutôt sur la dimension réseau social, même si certaines des applications auprès desquelles on a enquêté intègrent également une partie plus, ENT, donc espace numérique de travail. Et en quoi est-ce que les applications auprès desquelles nous avons, sur lesquelles nous avons enquêté empreintes au réseau social, c'est surtout sur leur fonctionnalité, mais également sur leur identité visuelle. Donc si vous allez taper dans une barre de recherche les applications, la Benelius School ou Classly ou Toute mon année, vous verrez vraiment que dans termes d'identité visuelle, on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche de Facebook et d'Instagram. On est vraiment sur ce type de dessin, de couleurs, c'est très travaillé. Et puis aussi, toujours sur le lien avec Facebook et Instagram, ce sont le fil de publication ou story. Donc l'enseignant va publier des stories. Et puis il y a une messagerie privée sur laquelle on peut entrer en communication, en discussion directement avec l'enseignant de son enfant. Donc en même temps, c'est un réseau social, mais c'est un réseau social scolaire et c'est un réseau social fermé, dans le sens où, sur les réseaux sociaux ordinaires, des personnes extérieures peuvent demander à y pénétrer et en faire partie, en être membre. Ici, la communauté, elle est fermée, elle est restreinte aux parents d'une classe, aux parents d'un établissement. Vous voyez ? Et puis, donc en cela, c'est quand même un espace protégé. Et en plus, et ça, c'est important également de le souligner, c'est que ces applications respectent le Règlement général de protection des données, donc le fameux RGPD, qui empêche la diffusion des données des utilisateurs. Alors, ici, pour la suite, donc on a continué sur le vocabulaire du réseau social. Donc la classe Instagrammable, qu'est-ce que c'est ? Donc comme sous tout réseau social, donc concrètement, donc l'enseignant, qu'est-ce qu'il fait ? Il publie des photographies, il publie des vidéos sur des activités qui vont sortir de l'ordinaire de la classe, c'est-à-dire qu'on va rarement voir, quasiment jamais pendant l'enquête, puisqu'on a également observé justement ces stories. Sur plusieurs comptes, ne vont pas vraiment publier des séances, par exemple, de lecture ou de mathématiques, mais ça va être plutôt des sorties scolaires, par exemple l'invitation d'un artiste, d'un écrivain en classe ou dans l'école, la participation à un spectacle. Ça peut être aussi une sortie à la médiathèque ou à la piscine. Ça va être les anniversaires des enfants qui sont fêtés en classe. Donc, vous voyez, on est vraiment sur des publications, des photographies et des vidéos d'événements vraiment qui vont marquer le quotidien de l'école. On parle ici donc de classe Instagrammable. Qu'est-ce que ça signifie donc cette classe Instagrammable ? La classe Instagrammable, c'est une classe qui est photographiée, c'est une classe qui est filmée et qui serait digne d'être diffusée sur Instagram. C'est-à-dire que c'est une classe qui est photogénique et c'est une classe qui est esthétique. Vraiment, ces deux critères sont très importants ici dans le cadre de ces diffusions. Donc, l'enquête a montré auprès des parents, a montré que leur adhésion, en fait, elle est vraiment supérieure aux critiques qu'ils vont adresser à ce genre d'application ou à ce genre de publication. Alors, ce qu'ils mettent en avant, c'est que ces publications, en fait, ils se sentent à la fois spectateurs, donc ils sont dans une forme de critique, puisque eux, ils ne publient rien. Vous voyez, ils sont là pour liker, pour commenter, pour dire que c'est bien. D'ailleurs, ils ne peuvent pas vraiment dire que c'est pas bien, puisque le dislike n'existe pas sur ces applications. On ne peut que mettre un cœur ou un pouce, mais on ne peut pas dire « j'ai pas aimé ». Voilà. Et donc, du coup, ça, c'est plutôt la critique, mais quand même, le point positif, c'est qu'on voit chez les parents que ces diffusions, en fait, leur permettent de réduire leur culpabilité, un peu cette culpabilité parentale contemporaine, de dire qu'on rate des moments de notre enfant, on n'est pas souvent avec lui, on travaille beaucoup, on rentre tard. Donc, du coup, ça permet justement de ne pas rater les bons moments de son enfant et d'apprécier avec lui la sortie qu'il a faite, l'artiste qu'il a rencontré, l'exposition photo à laquelle il a participé ou qu'il a créé avec son enseignant. Et Pour les parents, l'autre point important, c'est que ça leur permet de rentrer dans la classe, de rentrer virtuellement dans la classe. Et là, c'est un petit peu le fantasme de la petite souris, c'est-à-dire qu'on va regarder par le trou de la serrure, on va être la petite souris dans la classe, on va voir ce qui s'y passe. Et puis là, c'est vraiment un point positif, puisque ça va vraiment contrer et venir atténuer une critique parentale très forte d'être laissé un petit peu à l'extérieur de la classe, derrière la porte, voire même derrière le portail de l'école, puisqu'on sait que ces dernières années, marquées par le Covid, les plans Vigipirate, eh bien, ont fortement éloigné les familles, même physiquement, vous voyez, de la classe. Et là, en fait, virtuellement, ils peuvent voir ce qui s'y passe, ils peuvent être dans la classe, voir comment elle est décorée, etc. Et ce point, en fait, il était très, très présent également pour les parents d'enfants en élémentaire, puisqu'encore en maternelle, il y a la possibilité d'être un petit peu plus proche de la classe et des enseignants, ce qui n'est pas du tout quasiment pas le cas en élémentaire. Alors ici, on vous a proposé des extraits d'entretien justement pour illustrer un peu nos propos et pour vous montrer aussi comment, du point de vue des parents et du point de vue des enseignants, justement, s'expriment ces différentes analyses, ces différents résultats. Ici, on a le témoignage d'une mère de famille. Donc, il dit, ce qui est très sympa, c'est quand les maîtresses partagent des photos, on rentre un petit peu dans la vie de la classe et c'est chouette. Ça fait comme on fait à la crèche, on avait pas mal d'échanges sur ce qui se faisait dans la journée, pas mal de photos, et une fois arrivé à l'école maternelle, boum, plus rien. Là, avec l'application, c'est voir un petit peu comment ça se passe dans la classe, avoir quelques petites infos, parce que les enfants, ils ne racontent pas toujours. Elle prend une petite voix, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Rien. Donc voilà, c'est avoir un petit œil dans la classe, comme elle disait à la crèche, se transformer en petite souris pour voir un petit peu ce qui s'y passe. Par curiosité, pour avoir des infos. Donc on a vraiment ici les parents qui trouvent leur intérêt dans ces applications et ces diffusions. Là, un autre extrait d'entretien qui est un peu plus critique, puisque j'ai dit, la majorité des enseignants utilisateurs vont soigner les photos, vont soigner les vidéos, vont soigner la classe. Ça va être vraiment des très belles photos, c'est très esthétique, on voit vraiment des belles classes. Mais certains vont être aussi critiques aussi par rapport à cette recherche esthétique qui leur paraît parfois excessive. Donc là, on a une enseignante qui dit « La classe, ce n'est pas un spectacle. On n'est pas là pour mettre en scène sa pédagogie, on est là pour faire réussir les élèves. » C'est vrai que le côté réseau social, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit instagrammable, etc. Je prends beaucoup de recul par rapport à ça. Alors, c'est peut-être aussi parce que j'ai quand même enseigné quelques années. Je sais qu'une classe, c'est souvent un bazar, et c'est aussi ça, une classe qui travaille, c'est pas beau. Les affichages de travail sont pas forcément magnifiques. Voilà, tout n'est pas instagrammable. Parfois, c'est le bazar. C'est pas une communauté, on n'est pas là pour se vendre aux parents quand on est enseignant. Donc on a vraiment les deux côtés aussi, des points de vue des enseignants, mais également des parents. Alors, maintenant, de quelle manière, en fait, ces applications de communication, ces réseaux sociaux, transforment le métier de parent? Et là, c'est le point qui va nous intéresser maintenant. Donc on a mis ici un peu aussi quels sont les savoirs et les stratégies ordinaires des parents que les parents vont développer à force de fréquenter justement ces nouveaux outils. Alors déjà la première chose c'est qu'on voit que ces applications induisent de nouvelles tâches parentales. La première, c'est la compétence et la capacité à être réactif. Il faut être réactif, c'est-à-dire que... Donc, je vous situe un petit peu l'utilisation. Moi, j'ai été moi-même utilisatrice, donc je sais ce que c'est, je sais très bien ce que c'est. C'est-à-dire qu'on peut recevoir des publis au fur et à mesure de la journée. On peut en recevoir une à 9h le matin, une à 13h, une en pendant l'heure de midi. Certains enseignants vont plutôt différer, c'est-à-dire faire les publications en fin de journée. Mais on peut vraiment avoir des choses très instantanées. Et le travail des parents, c'est de réagir tout de suite. Et il doit être réactif, il doit liker. Donc ça, c'est un point très important. Et il doit reconnaître, en fait, le travail de l'enseignant, son engagement auprès des élèves, son travail. Et puis aussi, et c'est là aussi un point qui est particulièrement compliqué, complexe pour les parents, c'est la maîtrise d'un nouveau langage qui est à la fois formel et fun. C'est-à-dire que c'est un langage qui est hybride, qui va être très formelle, parce qu'attention, on s'adresse quand même à l'enseignante ou à l'enseignante de son enfant, donc on ne peut pas non plus être trop familier, mais en même temps, on ne peut pas être aussi formel que dans un mail, que dans un message, ou dans une lettre, vous voyez, dans le carnet de liaison, papier, etc. Donc il faut être à la fois fun et formel, donc il faut être cool en fait, il faut vraiment développer ce mode langagier très particulier. Et donc, je pense que tout le monde se fait cette réflexion dans sa tête, c'est que ces nouvelles compétences parentales, on verra dans la suite de la présentation, c'est mon collègue qui en parlera, vont également produire de nouvelles formes d'inégalités entre les familles qui vont justement pouvoir être réactifs, c'est-à-dire avoir le téléphone tout près, et puis qui vont savoir développer ce nouveau langage de communication avec les profs, avec les professeurs. Alors, finalement, les parents sur ces réseaux sociaux, ils sont plutôt passifs, voyez, c'est-à-dire qu'ils doivent réagir, ils doivent développer des compétences, ils doivent liker, envoyer des émojis. Donc c'est ça, hein, ce langage, il n'est pas juste, c'est pas juste des mots, c'est aussi des émojis, des petits smileys. Vous savez, il faut savoir envoyer le petit cœur au bon moment, le smiley qui rit, celui qui est mort de rire, etc. Et là, les parents, en fait, ils sont spectateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent liker, ils peuvent écrire un message en privé à l'enseignant, ils peuvent commenter dans des petits commentaires, mais là encore, ils doivent faire très attention de ne pas envoyer des commentaires trop longs ou trop impliquants ou trop critiques. Et du coup, finalement, ils vont, eux, plutôt communiquer entre eux, donc ils ne peuvent pas communiquer entre eux sur les réseaux sociaux scolaires, ils vont plutôt communiquer sur un autre canal, celui de WhatsApp. Et là, on va vraiment être sur des groupes de parents auxquels, bien entendu, les enseignants n'appartiennent pas. D'accord ? Donc l'enseignant n'est pas là. Et c'est là aussi sur les groupes WhatsApp qu'on a également, qu'on a également observé, les parents d'élèves ont communiqué entre eux, parfois réagir aux communications qu'il y a eu sur le réseau social. Vous voyez, un espèce de lien entre les deux. Et là, ils vont réagir entre eux, puis c'est plutôt sur WhatsApp qu'ils vont éventuellement se mobiliser, exprimer une critique, voire la porter auprès de l'enseignant. Alors, je vais... là, on a des extraits pareils d'entretien pour illustrer ces différents propos. Donc, on a deux parents d'élèves, ici une mère Agnès et un père Jérôme. Donc, beaucoup de parents sont devant des dilemmes. Beaucoup se sentent obligés de liker par rapport à l'enseignant pour montrer qu'ils sont de bons parents qui ont vu. Donc vous voyez, ce n'est pas des choses superficielles, c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que quand on like, on est un bon parent, on est un parent qui participe aussi à la vie scolaire de son enfant et à la vie de l'établissement, et on est dans la reconnaissance également du travail des enseignants. Un autre parent, donc moi je like, alors je n'ai pas Facebook, je ne suis pas du tout sur les trucs comme ça, je like pour une raison, c'est plus pour la maîtresse, parce que c'est un des aspects positifs, c'est une valorisation du travail de l'enseignant. On a là un autre, alors pardon, excusez-moi, je n'avais pas mis la diapo, c'est pas grave, j'avance, et là on a une autre mère qui là va dire, sinon, avec d'autres parents, on s'envoie les devoirs quand les enfants n'ont pas bien noté leurs devoirs sur l'agenda ou les documents pour faire les devoirs. Toujours par SMS, donc sur les réseaux WhatsApp. Ces trucs-là, je ne veux pas que la maîtresse soit au courant qu'un des enfants a oublié de noter les devoirs ou son cahier, etc. Et qu'après, la maîtresse les gronde pour ça. Donc, vous voyez aussi des stratégies en fait, de mobilisation des parents entre eux, où ils vont créer des alliances, des groupes, pour pouvoir s'échanger le cahier oublié, la photo de la page du livre de maths, etc. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vais tout de suite céder la parole à mon collègue pour la suite de la COP. Tu viens là.
Voilà, je prends la suite. Et donc, pour dire qu'au terme de cette enquête sur ces applications numériques, nous nous sommes posé la question... Est-ce que ce mode de communication différent, nouveau, émergent, redéfinit, recompose la relation entre l'enseignant et les parents ? Et également, plus loin, est-ce qu'on peut entrevoir à partir de cette nouvelle façon de communiquer l'émergence peut-être d'une nouvelle configuration dans la relation entre l'école et les familles ? Alors, dans l'histoire de la relation entre l'école et les familles, si on prend une histoire sur un siècle et demi, depuis la fondation de l'école républicaine, on est effectivement sur plusieurs référentiels. On est sur deux référentiels principaux, successifs, on va dire, qui renvoient à deux temps de cette relation. Le temps de la fondation de l'école républicaine, hein, dans lequel la mise à distance des familles va servir le projet de construction d'une nation unifiée. Il s'agit de capter les enfants contre les familles, de les séparer, de rompre le lien avec des milieux familiaux qui sont trop ancrés dans des spécificités locales, culturelles, linguistiques et bien sûr religieuses. Voilà. Alors, même si on a pu, même si les travaux des historiens ont montré que cette distance de l'école républicaine des instituteurs de laïcs et républicains vis-à-vis des familles et relève plus du mythe que de la réalité, tant l'école s'est en réalité ancrée dans des milieux singuliers. Donc, premier temps très important de la fondation de l'école républicaine, d'une distance mise avec les familles. J'en profite pour dire que ces différents référentiels se succèdent, mais ne disparaissent pas. Il y a une sorte ici d'empilement, c'est-à-dire que même aujourd'hui, on retrouve bien sûr cette couche toujours présente du premier référentiel de la rupture avec les familles, avec les parents, y compris dans la mentalité et dans ce que Axel Kilic a appelé dans son précédent travail la culture professionnelle informelle des enseignants, où effectivement la distance aux parents est un des éléments structurels de cette culture professionnelle informelle. Donc, à partir des années 1980, émerge un deuxième temps, hein, un deuxième référentiel de la relation aux familles, du fait d'une crise, hein, qui est celle du projet d'égalité de l'école républicaine, de l'école démocratique, et du coup de l'émergence d'un nouveau discours sur les familles qui doivent maintenant être considérées comme des partenaires. Bien sûr, tout cela dans un contexte où on a une montée à la fois du consumérisme scolaire, on l'a vu avec l'exposé précédent sur le privé, mais également l'obtention de droits de participation des parents. Et c'est alors un renversement du référentiel, puisque ça n'est plus la distance qui est valorisée, qui est légitime. La doxa, d'une certaine manière, devient la proximité avec les familles, puisque l'on pense que d'une relation proche advient finalement une meilleure scolarité pour l'enfant. Et cette tendance est encore accentuée et se manifeste, par exemple, à travers la doxa, un peu, on pourrait dire, de la coéducation. Il y a quelques années, on parle de plus en plus de coéducation, de coéduquer entre enseignants et parents. Et à nouveau, on peut se poser la question si on n'est pas un peu dans une crise maintenant du deuxième référentiel qui conduirait à l'émergence d'un troisième référentiel. Les raisons, elles en sont multiples, mais on peut mettre en avant, concernant la relation entre l'école et les familles, on va dire une complexité croissante de la gestion de cette relation par les professionnels. Pourquoi ? Parce que on assiste aujourd'hui, quel que soit le milieu social des parents, à un désir, à un souhait, à une revendication d'être informé au quotidien, de façon beaucoup plus précise, de façon beaucoup plus régulière, sur tout ce qui concerne la vie de son enfant à l'école. Que ce soit sur des dimensions d'apprentissage, mais également jusqu'à des dimensions de bien-être. Est-ce que, et on le voit par exemple à travers toute la thématique du harcèlement à l'école, qui occupe beaucoup les préoccupations des parents. Voilà. On a également des tensions liée à une sensibilité plus forte, et c'est une bonne chose, à des discriminations qui pourraient se manifester dans le cadre scolaire, en même temps que ce dont a parlé le professeur Menger dans son introduction, dans son propos introductif, l'accentuation de la compétition scolaire. Tout ceci crée effectivement une tâche complexe pour les professionnels et des conditions de dialogue plus exigeantes pour les enseignants. Donc on ne peut pas le nier, hein, la relation aux parents est une charge réelle du métier actuel de professeur des écoles. Et il faut souligner qu'en plus de toute la communication sur le suivi formel des apprentissages, il y a cette dimension, on va dire finalement presque sociétale, du travail relationnel de la part des enseignants vis-à-vis des parents, qu'on pourrait nommer, et qui sont des dimensions plus invisibles du métier et de la relation, eh bien, effectivement, la construction d'une convivialité, d'un lien social, d'une civilité, l'écoute, l'empathie, voire le soutien éducatif. Et d'une certaine manière, on pourrait dire que ces applications, elles arrivent à un moment donné complexification de cette tâche relationnelle avec les parents, et d'une certaine manière, elles outillent les enseignants pour réaliser ces tâches complexes. Donc, on peut dire que ce nouveau référentiel part des préoccupations et des besoins des enseignants et des parents à la fois. Du côté des parents, c'est le besoin d'une information plus régulière et plus large sur l'enfant, sur sa scolarité, sur son quotidien. C'est également la demande d'une relation plus distinctive, plus privée, on va dire, avec l'enseignant de son enfant. Et d'une certaine manière, ce troisième référentiel émerge d'une transformation par le bas. Ce sont les acteurs, finalement, qui, les acteurs ordinaires, professionnels et usagers, qui portent ce nouveau référentiel. Mais dans toute l'histoire des référentiels, concernant la relation entre l'école et les familles, c'est à la fois un mouvement du haut et un mouvement du bas. Donc il n'est pas impossible qu'à un moment donné, ce soit repris par l'éducation nationale. Alors, ce troisième référentiel, il est intéressant parce que c'est un référentiel qui hybride proximité et distance. C'est un référentiel qui, à la fois, du fait d'une technologie digitale, va rapprocher, alors, via les applications numériques, va rapprocher effectivement les deux parties, mais c'est aussi du fait que c'est une technologie virtuelle, un outil qui va pouvoir mettre à distance les parents. Voilà. Et d'une certaine manière, on va dire que de manière soit voulue, soit subie, les deux parties vont s'arranger, hein, d'une relation faite à la fois de proximité et de distance. Au bout du compte, ce n'est pas la communauté que les uns et les autres recherchent, mais plutôt une communauté numérique qui correspond bien à ce qui a été analysé par les sociologues spécialistes des réseaux sociaux comme une communauté de liens faibles, c'est-à-dire être en lien, mais sans trop d'intensité, pouvoir préserver ses espaces propres, l'école d'un côté, l'espace pédagogique d'un côté, l'espace familial de l'autre, tout en créant un climat de convivialité. Alors, la question, voilà, ça marche aussi là-dessus. La question, ah oui, alors, quelques extraits d'entretien pour illustrer l'aspect à la fois, ici, proximité. Donc, une professeure des écoles en réseau d'éducation prioritaire nous dit: quand on fait une publication, les parents ils viennent nous mettre un pouce, un like, et puis je fais des blagues, des choses typiquement qu'on ne fait pas d'habitude. La semaine dernière, j'ai fait une séance d'anglais, j'ai fait des dessins au tableau à main levée, de chiens, cochons, vaches. Donc j'ai marqué aux parents, sur l'appli, petite séance d'anglais, vocabulaire des animaux, et la maîtresse a sorti ses meilleurs talents de dessinatrice, avec le smiley mort de rire. Tous les parents ont répondu avec des smileys qui se marrent. Plus loin: quand j'ai eu mon premier enfant, j'ai envoyé une petite photo sur Classroom. Les parents ont fait faire des messages vocaux à leurs enfants. Coucou maîtresse, il est très beau ton fils. Voilà. Donc il y a ce côté, effectivement, de déformalisation de la relation, où l'école va se rendre plus proche, où l'école va être moins intimidante, où l'enseignant va être plus accessible. D'un autre côté, si on écoute certains des enseignants, bien sûr, à chaque fois, comme l'a dit Axel Kilich, il y a la diversité aussi d'opinions chez les enseignants. On a Marie qui nous dit il faut donner de façon très cash, voilà, je préviens avant, il faut donner des trucs aux parents, une belle photo, une production, une jolie fête d'école. Entre nous, entre profs, on se dit moi je les vois, moi je les reçois, mieux je me porte. Bon, c'est dit, sans filtre. Et puis Olivia qui nous dit « C'est vrai que ça prend du temps, on regarde les messages, mais ça prend moins de temps que de rencontrer la famille. » Donc, référentiel oxymorique, proximité, on se rapproche, convivialité, informalité, etc. Et en même temps, mise à distance. Voilà. Alors dans ce jeu de distance et proximité, eh bien, c'est ce que ma collègue a annoncé tout à l'heure, il y a la question centrale quand même en sociologie de l'éducation, des inégalités sociales et des inégalités de genre. Est-ce que ces applications digitales vont réduire, puisque c'est aussi une des promesses finalement des éditeurs privés qui vont parler de communauté de la classe, de communauté inclusive, est-ce que ces applications finalement, qu'est-ce qu'elles vont faire par rapport aux inégalités sociales ? Ça a déjà été un peu dit par ma collègue, eh bien il y a effectivement une compétence socialement distribuée et donc inégale à communiquer également sur ce réseau social scolaire, à pouvoir identifier le bon langage. Et effectivement aussi concernant par exemple la question de la réactivité, il y a une forte inégalité sur le fait que selon l'emploi qu'on occupe, on peut avoir son téléphone à côté, il peut même être un outil de travail ou pas. Si vous êtes caissière, si vous êtes manutentionnaire, ou si vous êtes si vous êtes sous l'œil direct de votre chef, du contremaître ou du chef, etc., vous pouvez moins facilement utiliser votre téléphone portable. Donc ça aussi, ça fait partie des coulisses, si vous voulez, de cette implication parentale. Par contre, il ne faut pas complètement avoir une vision du tout change et au fond rien ne change, puisque il y a aussi des opportunités qui sont créées avec cet outil technologique du fait que, par exemple, on a une application qui va proposer une fonctionnalité de traduction simultanée, hein, et ça c'est extrêmement intéressant. Avec des parents qui sont allophones, des parents qui sont qui ont connu une immigration récente, puisque chacun parle dans sa langue et chacun peut communiquer. Alors, est-ce que ces applications vont, voilà, autre version de la question des inégalités, agir sur les inégalités de charge éducative et de division du travail éducatif au sein du couple parental. Voilà. Alors. On ne met pas entre parenthèses, mais il y a tout ce que le professeur Menger a dit tout à l'heure sur l'accroissement de la proportion des familles monoparentales. Mais si on prend un couple parental, disons, classique, voilà, l'enquête que nous avons menée montre que, eh bien, ça ne change rien, puisque principalement, très 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 majoritairement, ce sont les mères qui ont l'application sur leur téléphone. Donc ce sont elles qui reçoivent les messages, qui réagissent, qui like, et j'ajoute à ce qu'a dit ma collègue, pas seulement pendant la journée, mais ça peut être aussi en soirée, ça peut être le week-end, ça peut être pendant les vacances scolaires, lorsque l'enseignant a décidé quand il envoyait ses messages et quand les parents reçoivent des notifications. Donc ici, on peut conclure en tout cas, ou observer sur la base de notre enquête, qu'il y a plutôt un accroissement de la charge mentale, hein, pour les mères par rapport à la gestion de cette communication digitale avec l'école. Et je laisse la parole à Axel Kilich pour la conclusion.
Alors, pour conclure, donc on va un peu reprendre cette idée de l'accessibilité. Donc là, vraiment, c'est vrai que lorsqu'on a mené notre enquête avec Jean-Paul Payet, on a pris les applications comme elles étaient. C'est-à-dire qu'on avait vraiment un regard, on n'était pas contre les applications, on n'était pas non plus pour les applications. Après, j'avoue que moi, je les utilisais pour mes enfants. Et donc, du coup, j'avais déjà une habitude en fait, d'utilisation. Mais quand même, on peut souligner que le rapport principal, c'est la question de l'accessibilité mutuelle. C'est-à-dire que tous ces messages qui transitaient par des carnets de liaison qui pouvaient être perdus, ou le mot qui n'arrivait jamais aux familles, ou la signature qui disparaissait, etc. Ici, vraiment, on n'est plus du tout dans ce cas-là. C'est qu'il y a vraiment une accessibilité qui est mutuelle dans les deux sens, vraiment. Et une rapidité aussi dans la communication, dans la discussion. En cela, vraiment, on voit qu'il y a un apport. Ensuite, on s'est posé la question des enfants. Et c'est vrai qu'en fait, on a également, on ne l'a pas mis dans l'ouvrage, mais on a enquêté également auprès d'enfants. C'est-à-dire qu'on a interviewé les enfants pour savoir qu'est-ce qu'ils pensaient de ces applications, qu'est-ce que cela refaisait que le soir, avant même que la maman leur pose la question « Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?» elle savait déjà « Aujourd'hui, tu es allé à la piscine et voilà ce que tu as fait, etc. etc. » Vous voyez, une espèce d'anticipation de tout ce qui s'est passé dans la journée. On a vu quand même que là, c'était une question qui échappait vraiment à la fois aux enseignants et aux parents, c'est-à-dire le fait que l'avis des enfants est exposé, et ils sont encadrés, et que cette continuité entre la sphère scolaire, où ils ne sont pas dans leur famille, donc ils peuvent vivre leur vie d'enfant, et puis cette vie familiale où il n'y a pas l'enseignant, ils peuvent vivre leur vie familiale, et bien finalement, elles sont en lien, il y a une continuité, et on peut voir des aspects positifs sur l'éducation, on peut dire, voilà, il y a des effets, des échanges entre les deux sphères, mais on peut aussi voir que sur la question de l'autonomie de l'enfant, qui est vraiment, dont la vie est exposée, eh bien là, on peut quand même soulever un problème éthique et aussi par rapport au point de vue des enfants. Est-ce que tu veux rajouter un dernier point ? Alors, on vous remercie pour votre écoute de notre communication. On espère que ça vous a plu. Et puis, on a hâte des échanges avec la salle.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.